Bonsoir à tous, à toutes. Je suis très heureux, ainsi que Anne-Cathy Graber, de vous accueillir pour cette soirée organisée dans le cadre de la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres. Je vous remercie beaucoup de votre présence. Je voudrais saluer en particulier le père Miguel Desjardins, directeur du Service national pour l'unité des chrétiens à la Conférence des évêques de France, Madame la pasteure Anne-Laure Danet, responsable du service des relations entre les églises chrétiennes de la Fédération protestante de France, Neil Bloch, qui représente la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, Catherine Cherkoukas, qui représente l'Institut supérieur d'études œcuméniques de l'Institut catholique de Paris, Larry Miller, ancien secrétaire du Forum chrétien mondial, des membres du groupe des Dombes, parmi lesquels Jane Strands, et aussi je salue spécialement son mari, Stephen Brown, directeur de l'Ecumenical Review. Je salue aussi le pasteur Christian Vacuet, membre aussi du groupe des Dombes, et qui représente ici la paroisse de l'église de Pont-Mont-Luxembourg, avec laquelle l'église Saint-Ignace a des liens privilégiés. Le père Bascoul, également vicaire épiscopal à l'œcuménisme pour le diocèse de Paris. Et, naturellement, les autres représentants des diverses églises et confessions chrétiennes, catholiques, anglicanes, protestantes, évangéliques, orthodoxes, qui nous ont fait l'amitié de venir ce soir. Je dois excuser Madame Anne-Sophie Vivier-Murzan, directrice de l'Institut supérieur d'études œcuméniques. Elle est retenue par la séance de rentrée académique de l'Institut protestant de théologie ce soir. Je dois aussi excuser Madame Valérie Nicolet, qui est précisément doyenne de cet Institut protestant de théologie, retenue par cette même séance de rentrée. Je dois aussi excuser le père Ivan Karjordiev, qui est enseignant à Saint-Serge et délégué œcuménique orthodoxe, retenu pour une raison de santé. Voilà. Alors, je voudrais dès maintenant, en mon nom propre et au nom de Anne-Cathy Graber, vous remercier spécialement de votre présence, mais remercier encore plus chaleureusement les deux autres intervenants de cette soirée, M. Cyril Sologoub et le pasteur Serge Wüttrich, que nous présenterons un peu plus tard durant cette soirée. Vous me permettrez, au seuil de cette soirée, d'évoquer la mémoire du père Bernard Cesboué, qui est décédé le 22 septembre dernier. Comme le savent beaucoup d'entre nous, il a eu un rôle de premier plan dans le dialogue œcuménique, comme membre du groupe des Dombes, comme membre du dialogue international catholique réformé, comme consulteur du conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens, et bien sûr, à travers ses nombreuses publications dans le champ de l'œcuménisme. Je tenais à le mentionner d'emblée, avec beaucoup de gratitude pour son engagement pour la communion des églises. Il y a 3 ans, nous avions abordé la question « Le dialogue œcuménique, enjeu pour la théologie chrétienne ». Il y a 2 ans, notre soirée s'intitulait « Quand les églises racontent leur histoire, la mémoire au service de la réconciliation ». L'an dernier, pour cette circonstance, pour cette soirée annuelle de la chaire de théologie œcuménique, nous avions proposé une réflexion sur Marie, Mère de Dieu. Quel défi pour la communion des églises. Pour cette année, nous avons souhaité que notre rencontre porte sur l'Eucharistie et je laisse Anne-Cathy Graber vous annoncer plus précisément le déroulement de notre soirée.
Merci Michel. D'où vient que les églises se soient séparées au sujet de l'Eucharistie? Allons-nous vraiment vers une même foi eucharistique, comme le propose le titre de la soirée? Cette question a été et reste une question centrale pour le dialogue théologique entre nos églises, comme pour le quotidien très concret de la vie œcuménique. C'est donc une question non résolue, encore vive, que la chaire de théologie œcuménique du Centre Sèvres a souhaité proposer à notre réflexion ce soir. Nous le ferons en 4 temps. Le premier, en nous mettant à l'écoute de diverses traditions ecclésiales, notamment orthodoxes, avec Cyril Sologoub. En plus de notre oreille, notre regard sera conduit dans l'écoute de cette tradition concernant l'Eucharistie. Dans un second temps, Michel Fédoux et moi-même présenterons brièvement les avancées qui ont été rendues possibles, en particulier par le dialogue du groupe des Dombes, dialogue dont nous avons repris l'intitulé pour cette soirée, vers une même foi eucharistique. Puis, dans un troisième temps, Serge Wüttrich nous proposera, selon ses propres mots, d'élargir l'espace de notre tente, une stratégie œcuménique, en nous faisant redécouvrir des positions de Luther, ainsi que celles d'un réformateur quelque peu oublié aujourd'hui, Vermigli. Enfin, tout en cherchant à identifier les questions qui demeurent, nous proposerons dans un quatrième temps quelques perspectives possibles. Quels ont été les pas significatifs rendus envisageables grâce au dialogue mené depuis un siècle? Quelles difficultés se manifestent encore aujourd'hui? Comment aller de l'avant vers le partage d'une même foi eucharistique? Un temps de questions-réponses, un moment de débat, clôturera la soirée avant de nous retrouver, pour celles et ceux qui le désirent, pour un verre de l'amitié. Donc les questions-réponses auront lieu à la fin, le débat à la fin, et non pas entre chaque intervention. Et nous aurons la joie ensuite de continuer le partage ensemble autour de ce verre de l'amitié.
Je voudrais donc introduire, pour commencer, Cyril Sologoub, qui est orthodoxe, enseignant-chercheur au Conservatoire national des arts et métiers, professeur de théologie liturgique et des arts liturgiques à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Jean le Théologien à Bruxelles. Vous intervenez aussi à l'Institut Saint-Serge. Vous êtes président du mouvement de jeunesse orthodoxe et vous êtes aussi enseignant invité au Centre Sèvres. Vous donnerez au mois de mars prochain un cours sur le renouveau de l'icône au XXe siècle. Vous allez nous faire entendre la voix de votre tradition, mais comme le disait Anke Tigraberg, vous allez aussi nous inviter à voir et à contempler. Vous allez nous rendre sensibles à la manière dont la connaissance de l'iconographie dans la tradition orthodoxe peut aider les chrétiens d'autres églises à développer un sens plus profond du mystère ou du mystérion de l'Eucharistie. Merci d'avance pour votre intervention.
Merci beaucoup pour cette introduction. Je souhaite souhaiter la bienvenue à tout le monde et remercier Anke Tigraberg et le Père Michel Fédou pour cette invitation et pour l'opportunité qui m'est offerte de partager avec vous quelques réflexions sur la tradition iconographique pour la deuxième année consécutive dans le cadre de ces rencontres qui deviennent des temps importants de l'année, des temps dans le dialogue œcuménique qui sont devenus des moments importants. Alors effectivement, l'approche qui m'a été demandée est celle d'une approche iconographique, ce qui peut paraître peut-être un peu, je dirais, anecdotique ou marginal à certains, mais il faut comprendre que dans la conception orthodoxe, il y a une forte unité entre les différentes traditions bibliques, liturgiques, dogmatiques, iconographiques. Et donc, il ne doit pas y avoir de hiatus entre ces différentes traditions. Et l'approche iconographique est donc un moyen de mieux comprendre, effectivement, d'un point de vue liturgique et dogmatique, la place, en l'occurrence, de l'Eucharistie dans notre tradition. Alors, je commencerai assez simplement par rappeler que dans l'art des premiers siècles de l'ère chrétienne, l'art des catacombes, qui était, je vous le rappelle, un art simple, didactique, avec un langage symbolique, c'est-à-dire un langage surtout destiné à exprimer par l'art une réalité qui ne pouvait pas être exprimée de façon directe. Dans cet art des catacombes, dans cet art du christianisme primitif, eh bien, le poisson était l'un des symboles les plus répandus. Et non seulement donc pour la signification des cinq lettres de ce mot en grec, mais également parce que le symbolisme du poisson renvoie au symbolisme de l'eau et donc au sacrement du baptême, mais également à l'Eucharistie. Vous avez ici donc un symbole, peut-être le premier symbole de l'Eucharistie, le poisson et les pains eucharistiques, bien que le poisson n'ait jamais été employé comme espèce eucharistique. Donc voici les, disons, les premières icônes de l'Eucharistie. Et dans le déroulement historique et le développement historique de l'art iconographique, il y a un moment charnière qui se situe autour du 7e siècle, au moment du concile qu'on appelle le concile Quinisexte, qui se tient à la fin du 7e siècle, qui est également appelé le concile Intrullo, qui tient une place importante pour l'art iconographique et qui ordonne en particulier de remplacer les symboles par la représentation directe de ce que ces symboles préfiguraient. Donc l'idée était ici véritablement de révéler le sens, le vrai sens théologique. Donc c'est à cette époque qu'on a remplacé les icônes du Christ qui étaient souvent symbolisées par un agneau, qu'on a représenté directement le Christ. Donc au moment de ce concile, donc autour de la fin du 7e siècle, et c'est là que sont apparus ces deux types iconographiques qui sont restés dans la tradition byzantine, les deux façons de représenter l'Eucharistie. Alors, une représentation que l'on pourrait qualifier de plutôt historique, à gauche avec le repas, la Sainte Cène, donc où on voit véritablement la table, et qui fait référence évidemment au dernier repas partagé par le Christ, au moment où il ordonne à ses disciples de manger et de boire, et de faire ceci, de continuer à faire cela, en mémoire du Christ lui-même. Donc cette représentation de la scène, représentation que l'on qualifie d'historique, et une deuxième représentation que l'on pourrait qualifier plus de liturgique ou de théologique, disons-le, que l'on appelle la communion des apôtres, où là on voit, alors on distingue peut-être pas très bien sur cette patène, donc ce plateau liturgique sur lequel donc on va déposer le pain qui va devenir le corps du Christ. On ne distingue peut-être pas très bien, mais on verra d'autres représentations plus tard, le Christ qui apparaît donc, qui est représenté deux fois. Alors ça, c'est pas une règle systématique, mais assez fréquente, et qui distribue la communion sous les deux espèces aux apôtres. Donc on n'a pas forcément de traces de ces représentations dans les églises, dans la période pré-iconoclaste, mais c'est peut-être lié au fait, comme vous le savez, qu'au moment de la crise iconoclaste, toutes les fresques et mosaïques ont été détruites. Et donc ça ne veut pas dire qu'on ne représentait pas cela dans les églises avant la crise iconoclaste. Néanmoins, donc, vous voyez, dès le 6e siècle, alors en Occident, on a conservé cette très belle mosaïque sur les parois de la basilique Saint-Apollinaire le Neuf, et puis sur cette vaisselle liturgique, la première représentation de la communion des apôtres. Et on a conservé aussi ces représentations dans des évangéliaires, donc un des évangéliaires les plus connus, qui date de la même époque à peu près, conservé à Rossano, donc l'évangéliaire de Rossano, on retrouve la communion des apôtres, où le Christ distribue le pain à droite ici et le vin. Pardon, je me rends compte que vous ne voyez pas mon pointeur. Voilà, le Christ qui distribue le pain ici donc aux apôtres et le vin qui fait boire donc de la coupe, le vin, et un apôtre que l'on reconnaît être l'apôtre Pierre, selon sa typologie iconographique classique, qui vient boire, vous voyez, avec beaucoup d'humilité, à la coupe que lui présente le Christ. Alors, dans ce même évangéliaire, on retrouve l'autre type iconographique, qui est celui de la Sainte Cène. Encore une fois, qui a connu plusieurs variantes, mais dont les principales caractéristiques sont le fait qu'on a le Christ, qui soit sur le côté ou au centre, la coupe eucharistique au milieu, et la personne de Judas qui est représentée, et selon le récit évangélique, qui est représentée en train de se servir dans le plat posé au milieu de la table. Donc voici ces deux types iconographiques, et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment vont évoluer ces deux types iconographiques au cours des siècles suivants, et en premier lieu, où seront représentés ces deux types iconographiques dans l'espace liturgique. Alors, vous savez que l'espace liturgique est le programme iconographique dans l'espace liturgique dans la tradition byzantine est extrêmement répond à un certain nombre de codes, de règles, même s'il y a une forme de liberté, l'iconographe doit respecter un minimum de règles, ne serait-ce que dans la position des thèmes iconographiques. Et je pense que vous avez tous entendu parler de cette iconostase, qu'il ne faut pas voir comme une séparation de l'espace liturgique, mais plutôt il faut comprendre comme un lien entre la nef et ce qu'on appelle le sanctuaire, c'est-à-dire en fait dans la tradition, dans l'architecture occidentale, on appelle ça souvent le cœur. C'est-à-dire là où est placé l'autel et où se trouve le célébrant. Alors, dans le développement tardif de cette iconostase, qui malheureusement a connu un développement dans certains endroits et à certaines époques, un développement très exagéré et a été compris plus comme un mur de séparation plutôt qu'un lien entre l'espace de la nef et donc le sanctuaire. Mais dans le développement de cette iconostase, l'Eucharistie est représentée juste au-dessus des portes royales. Donc vous voyez ici la scène au-dessus des portes royales qui symbolise véritablement l'entrée dans le sanctuaire qui est le symbole du royaume. Donc l'entrée véritablement du royaume, comme le chemin, comme la voie par excellence d'entrer dans ce royaume, le chemin de déification qui est proposé donc à l'homme, le sacrement par excellence qui est proposé par l'homme. Qui est proposé par Dieu, à l'homme. Alors, au-dessus des portes royales, on a représenté aussi bien la communion des apôtres que la Sainte Cène, de façon indifférente. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Vous avez ici donc cette communion des apôtres avec toujours l'autel. Cette fois-ci, hein, donc je répète que nous ne sommes plus dans une représentation historique, mais bien dans une interprétation théologique. Ce qui est représenté ici, c'est véritablement une icône, finalement, de l'Église. Une icône de l'Église qui est symbolisée ici par l'ensemble du collège apostolique. Et pour preuve, le fait que, généralement, les deux apôtres qui reçoivent le corps et le sang du Christ sont les apôtres Pierre et Paul. Donc l'apôtre Pierre, que l'on reconnaît de façon sans aucune ambiguïté, ici à gauche, et puis l'apôtre Paul, qui est bien la preuve qu'on a bien ici une interprétation théologique et non pas historique, puisque Paul n'a pas participé à la scène. Voilà, donc on a ici déjà, disons, à la fin du 9e, 10e, 11e siècle, l'âge d'or, si vous voulez, l'époque byzantine, une interprétation théologique très forte comme l'Eucharistie, sacrement qui fonde l'Église, sacrement du royaume, pour reprendre une expression d'un théologien du XXe siècle, qui est le père Alexandre Schmemann, qui est un des acteurs du renouveau théologique et de la conscience théologique de l'Église comme sacrement, ou plutôt de l'Eucharistie comme sacrement de la communauté ecclésiale. Alors vous avez d'autres, ça c'est une icône en Russie au XVe siècle. Vous avez d'autres représentations, vous voyez, donc on adapte la représentation iconographique à l'espace dont on dispose juste au-dessus des portes royales. Ça, c'est une icône que vous pouvez voir, une fresque, ou une icône plus précisément, que vous pouvez voir dans le 15e arrondissement, qui a été peinte par un des iconographes les plus connus du XXe siècle, le père Grégoire Crook, et son ami le père Léonid Ouspensky, donc dans une église qui se situe dans le 15e arrondissement. Voilà, alors je termine, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais ce que je voulais dire aussi, donc c'est, on retrouve la Sainte Seine, oui, c'est que dans le développement de cette représentation de l'Eucharistie, on place ces deux types au-dessus des portes royales, mais on va placer aussi dans le sanctuaire même la représentation, cette fois-ci, non pas de la scène, mais de la communion des apôtres. Et ça, c'est un glissement, si vous voulez, qui s'opère au fil du temps et qui montre à quel point l'Eucharistie... alors, on veut donner un sens théologique à cette représentation de l'Eucharistie, hein. D'une certaine façon, on abandonne la représentation de la scène, ou plutôt on la laisse au-dessus des portes royales, et dans le sanctuaire, on va placer cette communion des apôtres comme véritablement icône de l'Église. Hein. Et ça se répand dans l'ensemble du monde byzantin. Vous avez ici plusieurs, je vais montrer quelques exemples, mais un des exemples les plus frappants, c'est l'abside de la cathédrale Sainte-Sophie à Kiev au XIe siècle, donc cette très belle communion des apôtres, où on voit à nouveau ici l'apôtre Paul qui reçoit le sang qui boit au calice, et tout près de la cathédrale Sainte-Sophie, dans le monastère Saint-Michel, toujours à Kiev, un peu plus tard, cette même communion des apôtres. Et on va retrouver, encore une fois, dans l'abside, hein, véritablement, devant, à l'endroit le plus proche, si vous voulez, de l'autel où se célèbre ce mystère eucharistique, cette communion des apôtres, très clairement, comme montrant l'importance de l'Eucharistie dans la vie de l'Église. Alors, deux variantes, donc ça c'était vous montrer à quel point cette pratique se généralise dans l'ensemble du monde byzantin, en Macédoine, en Grèce, au Moatos, en Russie. Et je terminerai par deux variantes intéressantes qui nous permettent encore une fois de mieux comprendre l'approche de ce mystère eucharistique. Cette première variante, où on a une variante de la communion des apôtres, où cette fois-ci il n'y a pas deux Christ comme souvent, mais un seul Christ qui est face aux célébrants, et qui lève la main et qui bénit de sa main droite, et qui lève et qui tient dans sa main gauche le pain, qui est peut-être une référence à l'épiclèse, qu'on appelle l'épiclèse, c'est-à-dire l'invocation du Saint-Esprit, puisque dans la tradition orthodoxe, le pain et le vin deviennent corps et sang du Christ après l'invocation du Saint-Esprit. Et puis une autre variante où, comme je vous l'ai dit, on voit une nouveauté et qui est restée quand même assez marginale, cette variante-là. On voit une nouveauté apparaître dans cette représentation de la communion des apôtres, c'est l'apparition à nouveau de Judas. Donc Judas qui était représenté dans la première représentation de la scène, il a été effectivement présent. Alors est-ce qu'il était, selon les évangélistes, il est parti avant ou après le partage de la coupe? Mais dans la représentation historique, il est représenté. On a ici donc la représentation théologique, si vous voulez, liturgique, avec la communion des apôtres. On reconnaît ici l'apôtre Pierre et on reconnaît Judas qui est à l'écart, qui n'a pas d'auréole. Alors, dans certaines représentations, on le représente avec une auréole éventuellement d'une autre couleur, ou en tous les cas on le représente de profil, qui dans la tradition iconographique est bien le signe qu'on a, et non pas un visage de face ou aux deux tiers, qui est la façon classique de représenter un saint, semble-t-il vomit d'une certaine façon l'Eucharistie. Voilà, donc c'est une représentation qui a beaucoup intrigué les théologiens et les spécialistes de l'art iconographique et liturgique. Mais encore une fois, qui ne vient pas contredire, puisque même s'il est représenté, sa participation au mystère de l'Eucharistie n'est pas entière ici, ne vient pas contredire le sens théologique. Voilà, je m'arrêterai là-dessus et donc conclurai sur le fait que l'Eucharistie est représentée dans la tradition iconographique comme le sacrement fondamental, qui est le Christ lui-même finalement. On voit le Christ qui donne l'Eucharistie et qui se donne lui-même. Et cela fait référence à une prière qui précède l'offertoire dans la divine liturgie de Saint Jean Chrysostome. Le Christ est celui qui offre et qui est offert, et l'Eucharistie comme fondement de la communauté ecclésiale, avec une totale identité entre l'Eucharistie et l'Église, et cette idée que c'est précisément cette unité de foi qui va fonder l'unité de l'Église. Je voulais terminer aussi par cette icône-là qui... une icône que tout le monde connaît une icône de la Trinité, si tant est qu'on puisse représenter la Trinité. Donc ça, c'est tout un débat. Donc dans ces murs-là, je développe, l'année dernière j'ai développé, il y avait donné un cours sur les icônes de la Trinité, et donc je passe quelques heures sur cette icône de cette représentation de la Trinité de Roubleff, où ce qui est vraiment très impressionnant, c'est à la fois l'unité et la diversité se dégage de ces trois anges, et cette dynamique et cette ouverture qui se dégage de ce qui est véritablement la signature du génie de cet iconographe. Mais là, ce qui m'intéresse, c'est précisément la dimension eucharistique qui est que l'on peut très clairement voir dans cette coupe qui rappelle la coupe eucharistique, que l'on voit même dans la composition, vous voyez, dans l'espace qui est laissé entre les trois anges. Donc encore une fois, comme l'Eucharistie qui fonde qui est au cœur même de la vie trinitaire, puisque ce n'est pas autre chose que suggère cette icône-là, et qui fonde la vie de l'Église. Voilà, je vous remercie.
Voilà. Merci beaucoup de nous avoir introduit, rendu attentif à cette place de l'Eucharistie et de la communion des apôtres dans l'iconographie. J'étais frappé en vous écoutant, vous avez insisté un moment sur le passage, hein, d'une représentation à une autre, hein, le fait que la représentation de la communion des apôtres devenait prédominante à partir d'une certaine époque. Et je me disais, en vous écoutant, je repensais au livre de Henri de Lubac, Corpus Mysticum, qui montre comment, du côté de l'Occident, l'expression Corpus Mysticum, qui est appliquée à l'Eucharistie d'abord, en est venue à être appliquée à l'Église elle-même. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu parallèle dans ce développement. Merci beaucoup vraiment de nous avoir introduit à cet art de l'icône sur la question précise de l'Eucharistie. Comme l'annonçait Anne-Cathy Graber, nous allons maintenant faire une sorte de transition, si vous voulez, entre ce que nous venons d'entendre et l'intervention de Serge Butrich. Nous allons maintenant dire quelques mots sur le fameux document qui a inspiré le titre, l'intitulé de notre soirée, le document du groupe des Dombes vers une même foi eucharistique, avec un point d'interrogation. Je rappelle d'un mot que ce groupe des Dombes a été fondé en 1937 par l'abbé Paul Couturier. Actuellement, il rassemble une quarantaine de membres, 20 catholiques et 20 protestants. Et ce groupe, jusqu'à une époque relativement récente, disons jusqu'aux années 1970, ce groupe avait simplement publié des thèses, et c'est seulement au début des années 70 qu'il a décidé de publier de véritables documents. Le premier document a été élaboré précisément en 1971, donc il y a tout juste 50 ans, et c'est ce document, ce petit document, vers une même foi eucharistique. Père Cézoué, que j'évoquais tout à l'heure, faisait partie du groupe à ce moment-là. Le but de ce document, vers une même foi eucharistique, c'est d'examiner le sens et les conditions de l'ouverture eucharistique mutuelle et de la célébration commune entre catholiques et protestants, le groupe des Dombes étant principalement composé de protestants de tradition luthérienne et de tradition réformée. Et examiner le sens et les conditions de l'ouverture eucharistique, cela suppose, dit le groupe, un accord substantiel sur ce qu'est l'Eucharistie elle-même. Je vais simplement résumer de manière très brève les premières conclusions du document et Anne-Cathy présentera ou résumera les dernières conclusions. Trois points me semblent à retenir. Premier point, le document d'il y a 50 ans, vers une même foi eucharistique, rappelle que l'Eucharistie, c'est le repas du Seigneur. Cela peut sembler banal. En fait, c'est très important. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne comme nourriture à la faveur d'un repas partagé. Deuxième point que je retiens, le document du groupe des Dombes remet au premier plan la catégorie biblique de mémorial. Je cite, « Le Christ a institué l'Eucharistie comme le mémorial, anamnèse, de toute sa vie. Le Christ, avec tout ce qu'il a accompli pour nous et pour toute la création, est lui-même présent dans ce mémorial qui est aussi avant-goût de son royaume. » Comme vous savez, la notion de mémorial a son origine dans la première Pâque. On lit dans l'Exode, chapitre 12, « Ce jour-là, vous en ferez mémoire et le solenniserez comme une fête en l'honneur du Seigneur. » Et il faut bien comprendre que le mémorial de cette Pâque, pour Israël, ce n'était pas simplement le souvenir du passé, mais que, à travers ce mémorial, l'événement passé était rendu de quelque manière présent. Or Jésus, à son tour, lors de la dernière scène, invite ses disciples à rompre le pain, à manger et à boire en mémoire de lui. Faites cela en mémoire de moi. Et là encore, il ne devra pas s'agir d'un simple rappel du passé, mais l'événement passé sera représenté au sens fort du mot, c'est-à-dire rendu présent. Et bien donc, le groupe des Dombes recourt à cette notion de mémorial suite au travail d'un certain nombre de biblistes en particulier. Et pour le document du groupe des Dombes, c'est une manière de surmonter en quelque sorte le contentieux traditionnel entre l'Église catholique et les Églises de la Réforme. Car jusque-là, l'Église catholique insistait avant tout sur ce qu'on appelle traditionnellement la présence réelle du Christ qui se donne dans l'Eucharistie. On avait même forgé un mot philosophique, transsubstantiation, pour rendre compte de cela. Tandis que les Églises de la Réforme soulignaient plutôt que la scène était le signe de l'offrande que le Christ avait faite de sa vie une fois pour toutes. et que l'Eucharistie ne devait donc pas être entendue comme une répétition ou un renouvellement de ce sacrifice unique du Christ. Eh bien, le groupe des dons dépasse précisément cette opposition. D'un côté, l'Eucharistie n'entend pas répéter ou compléter l'offrande unique du Christ, et en ce sens, elle est bien mémoriale, anamnèse, mais de l'autre, le mot mémorial doit être entendu dans son sens le plus fort. Je cite le document du groupe, il ne s'agit pas seulement de rappeler à l'esprit un événement du passé ou même sa signification, mais le Christ est lui-même présent dans ce mémorial. Et le troisième point que je retiens, c'est justement cette idée d'une présence sacramentelle du Christ dans l'Eucharistie, présence rendue possible par l'invocation du Saint-Esprit. Le document du groupe déclare ceci, je cite, « L'Esprit nous rend le Christ réellement présent, nous le donne et nous le fait discerner. » Il dit encore, « Nous confessons unanimement la présence réelle, vivante et agissante du Christ dans ce sacrement. » Il faut réaliser combien cet accord est tout à fait remarquable. En 1971, c'est un accord qui a été signé, un texte qui a été signé par tous les membres du groupe, non seulement les catholiques et les protestants de tradition luthérienne, mais aussi les protestants de tradition réformée, qui traditionnellement ont été plus distants par rapport à la compréhension catholique de la présence réelle. Donc, un accord de très grande importance qui a été signé par les 40 membres de ce groupe à l'époque. Naturellement, cet accord n'a pas tout résolu. Le document du groupe des dons est conscient d'une divergence en particulier qui demeure à propos de ce qu'on appelle la réserve eucharistique. J'aurai l'occasion sans doute d'y revenir plus tard. Mais cette divergence est seconde par rapport au point central que je viens d'évoquer, la reconnaissance de l'Eucharistie comme mémorial au sens fort du mot, d'une manière qui évite de présenter l'Eucharistie comme complétant l'offrande unique du Christ et qui permet en même temps de penser la réalité de la présence du Christ se donnant comme nourriture dans le repas eucharistique. Je laisse maintenant Cathy présenter la suite et la fin du document.
Le document se poursuit par six autres points que je vais vous présenter brièvement. Je m'arrêterai simplement sur trois d'entre eux et les autres, je les citerai simplement. Alors, le premier point sur lequel catholiques et protestants insistent, et ce point peut paraître banal dans un premier temps, l'Eucharistie, communion au corps du Christ. En fait, ce qui est vraiment souligné à cet endroit, c'est que la présence du Christ dans l'Eucharistie, là, est décrite en termes d'action. Sa présence est don, c'est une présence créatrice, créatrice de relations. Il ne s'agit pas de n'importe quelle relation, mais de relations de communion avec le Christ tout entier, entre les croyants qui partagent le pain et la coupe. Le document poursuit en disant que cette communion donnée, évidemment, dépasse le caractère local et s'établit au-delà, avec tous les autres communiants, en tout temps et en tout lieu. En soulignant ce lien créateur entre Eucharistie et communion au corps du Christ, les catholiques comme les protestants du groupe des dons peuvent écrire ensemble, je cite, « C'est en ce sens que l'on peut dire, si l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église. » Alors ce « en ce sens » montre bien que cette affirmation connue, « si l'Église fait l'Eucharistie, l'Eucharistie fait l'Église », ne va peut-être pas de soi œcuméniquement parlant. Je reviendrai sur ce point ultérieurement dans la soirée. Le deuxième point important, souligné par le groupe des Dombes, qui peut là aussi paraître banal, c'est qu'il redit que l'Eucharistie est le lieu où est accueillie la vie quotidienne de chacun, avec ses questions, ses besoins, sa misère, pour être transfigurée par la croix et la résurrection. Je cite « La célébration de l'Eucharistie, fraction d'un pain nécessaire à la vie, incite à ne pas consentir à la condition des hommes privés de pain, de justice et de paix. » Fin de citation. Donc, disent-ils, l'Église se trouve unie au Christ dans sa mission à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle, troisième point, je passerai très vite là-dessus, c'est la raison pour laquelle elle peut être nommée aussi banquet du royaume, poursuit le texte, fête de l'espérance, anticipation de la communion parfaite du royaume de Dieu. Le quatrième point concerne cette fois un domaine plus délicat entre nos églises, la présidence de l'Eucharistie. Le texte rappelle que c'est d'abord le Christ qui préside. Il poursuit disant, je cite, « Cette présidence a pour signe celle d'un ministre qu'il a appelé et envoyé. La mission des ministres a pour origine et pour norme celle des apôtres. » Donc, il souligne là à quel point cette, évidemment, transmission apostolique, elle est transmise dans l'Église par l'imposition des mains avec l'invocation du Saint-Esprit. Cette transmission implique la continuité de la charge ministérielle, la fidélité à l'enseignement apostolique et la conformité de la vie à l'Évangile. Alors, une des conséquences toutes simples, qui est une phrase comme celle-ci, ça veut tout simplement dire, évidemment, que catholiques et protestants reconnaissent, en tout cas les protestants ne disent pas que l'Église, leur Église, est née au XVIe siècle. Évidemment pas. Elle est née avec les apôtres. Elle est rattachée aux apôtres et à la vie apostolique. Et l'enseignement est fidèle au temps apostolique. Il poursuit aussi en disant que le ministre manifeste que l'Assemblée n'est pas propriétaire du geste qu'elle est en train d'accomplir, qu'elle n'est pas maîtresse de l'Eucharistie, mais qu'elle la reçoit d'un autre, le Christ vivant, son Église. Cinquième point, qui est une conclusion qu'en tire le groupe des Dombes. Le groupe des Dombes considère à cette étape de son travail que les difficultés fondamentales concernant la foi eucharistique ont été levées. Donc les difficultés fondamentales, vous en avez entendu parler, que ce soit par Michel Feydeau ou moi-même, donc la question de la présence réelle, mais aussi la question du ministère. Même s'il reconnaît que des clarifications restent nécessaires sur deux points, et non des moindres, je viens plus ou moins de les nommer, la permanence de la présence sacramentelle et le ministère. Donc nous reviendrons aussi sur ces questions tout à l'heure. Et enfin, sixième point, le groupe peut donc faire, au terme de son travail, une recommandation. Il ne le fait pas à chaque fois dans son travail, mais là il s'adresse vraiment aux responsables, aux autorités des églises, et il demande que les autorités des églises acceptent de considérer avec attention la situation nouvelle. Il parle de situation nouvelle créée par cet accord eucharistique. Et donc que ces autorités d'Église puissent envisager avec discernement la pratique de l'hospitalité eucharistique. Comme cela vous a été annoncé tout à l'heure, donc nous poursuivons après cette présentation brève de ce document du groupe des Dombes par l'intervention de Serge Wüttrich. Serge Wüttrich est pasteur de l'Église protestante unie de France à Villeneuve-Saint-Georges. Pasteur donc, après avoir été physicien dans le domaine aérospatial. Docteur entre autres en théologie, il est aussi membre du groupe des Dombes et l'auteur du livre Martin Luther, théologien. Serge Wüttrich est également président de la commission des relations avec le judaïsme au sein de la Fédération protestante de France. Donc nous lui laissons la parole maintenant pour cette fois-ci entendre plus la tradition venant de Luther et d'un réformateur moins connu que vous découvrirez sans doute avec nous ce soir.
Merci Anne-Cathy. Bonsoir. Voilà, j'ai donné comme titre à ma présentation « Élargis l'espace de ta tente, une stratégie écuménique ». Alors cette proposition dit ceci en fait, « Chaque confession devrait chercher à étendre le champ de ce qui est théologiquement acceptable pour elle, afin d'offrir une reconnaissance possible par les autres confessions ». Et ce soir, j'aimerais illustrer cette stratégie appliquée à la question eucharistique, puisque c'est évidemment le thème de cette soirée. Alors, on l'a dit, la question eucharistique est extrêmement complexe, comporte de nombreuses facettes, celle du ministère, du rapport entre communauté eucharistique et communauté ecclésiale, la question du sacrifice, etc., etc. Comme le temps qui m'est imparti est assez court, je ne vais considérer qu'un seul élément de ce débat. Je vais essayer de vous montrer comment, à propos du problème particulier de la présence du Christ dans le pain et le vin de l'Eucharistie, une modification de la position luthéro-réformée, donc de ma tradition, pourrait éventuellement être acceptable, voire acceptée, par l'Église catholique romaine. Comment elle pourrait devenir catholico-compatible? Alors bien sûr, ma présentation va être très schématique. Je vais vous donner uniquement les éléments nécessaires pour comprendre la mise en œuvre d'une telle stratégie. Alors on le sait, les églises se sont historiquement divisées sur la question de la présence réelle du corps et du sang du Christ dans l'Eucharistie ou le repas du Seigneur. Mais pour quelle raison? J'aimerais d'abord m'arrêter, parce que c'est crucial pour comprendre le débat au XVIe siècle entre protestants et catholiques, à deux aspects seulement de la position de Thomas d'Aquin, qu'il expose dans la Somme théologique. Le premier point concerne la différence entre la présence locale et la présence réelle du Christ dans les sacrements. Et je note juste en passant que dans la Somme théologique, Thomas n'utilise pas l'expression « présence réelle » pour parler de l'Eucharistie. L'unique occurrence se trouve en relation avec le thème de l'espérance. Quoi qu'il en soit, la thèse de Thomas est la suivante. Je cite juste un paragraphe. Aussi le corps du Christ est-il dans ce sacrement par mode de substance, mais il ne s'y trouve pas par mode de dimension, c'est-à-dire selon le mode où les dimensions d'un corps occupent les dimensions de l'espace, selon qu'il est visible sous son apparence propre. C'est la substance du corps du Christ ou de son sang qui est dans ce sacrement en vertu du sacrement. Autrement dit, Thomas distingue clairement entre une présence par mode de dimension, présence locale, et une présence par mode de substance. Et le point important ici, c'est que la présence par mode de substance ne requiert pas la présence locale. D'ailleurs, Thomas dit explicitement que si le corps du Christ se trouvait par mode de dimension dans le sacrement, alors il ne pourrait pas se trouver simultanément sur deux autels. Le second point que j'aimerais souligner, c'est que pour parler de la transformation, de la conversion de la substance du pain en la substance du corps du Christ, sous les accidents du pain consacré, Thomas utilise l'analogie de la création. Et il ajoute qu'en réalité, c'est même plus complexe qu'une création ex nihilo, parce que dans le cas eucharistique, les accidents du pain demeurent quand bien même la substance du pain a disparu. Alors cette position de Thomas d'Aquin a été rejetée par les églises de la Réforme, même si par ailleurs, luthériens et réformés n'ont pas été capables de faire front commun sur cette question. De manière générale, les réformés ne vont pas reprendre les catégories proposées par Thomas, ce qui va rendre difficile, voire impossible, le dialogue. Parmi la première génération de réformateurs, on trouve Zwingli et Luther. Alors Zwingli avait une compréhension très différente de la façon dont le pain et le vin fonctionnent dans le repas du Seigneur. Pour lui, pour le dire simplement, ce sont des symboles de quelque chose qui n'est pas nécessairement présent. Ce qui s'est produit dans le passé à travers l'œuvre salvifique unique du Christ est symbolisé et rappelé dans la scène du Seigneur. Mais au-delà de cette compréhension symbolique, ce dont la tradition réformée inaugurée par Zwingli se soucie particulièrement, c'est de protéger l'intégrité du corps humain du Christ après sa résurrection et son ascension. En effet, pense Zwingli, si le Christ est, d'une manière ou d'une autre, substantiellement présent dans la scène, alors il est impossible de maintenir la pleine intégrité de son corps humain localisé au ciel. Calvin, lui, a considérablement modifié les vues de Zwingli, mais il a toujours cette même préoccupation, parce que pour lui aussi, l'enjeu de cette question n'est rien d'autre que celle du salut. Pour Calvin, si l'humanité glorifiée de Jésus est modifiée, alors l'idéal du salut est détruit. Mais on voit surgir le problème. Si la vie corporelle du Christ glorifié signifie nécessairement une vie corporelle localisée au ciel, alors se pose la question de sa présence dans l'Eucharistie. Calvin, lui, va contourner cette difficulté grâce à sa pneumatologie, en affirmant non pas tant que le corps du Christ est dans le pain, mais que le pain est l'instrument par lequel l'Esprit, je cite, « permet à la chair du Christ de vivifier les âmes ». Le Christ ne change point de lieu, il descend toutefois à nous par sa vertu pour nous élever jusqu'à soi au ciel. Et de fait, Calvin reprend la position d'Augustin en affirmant que le Christ est présent au milieu des siens, en sa majesté, en sa providence et en sa grâce indicible. Grâce qui le rend présent réellement. Et Calvin peut aller jusqu'à dire, en s'offrant aux croyants, c'est, je cite, le Christ tout entier qui est substance de la scène. Telle n'est pas la position de Martin Luther. Alors, le point de vue luthérien est parfois appelé consubstantiation, mais il n'est pas clair si cette doctrine est vraiment celle de Luther ou plutôt de celle de ses héritiers philippistes. En fait, Luther n'est pas un théologien facile à cerner parce que ses écrits sont circonstanciels et qu'il n'a pas produit un système dogmatique cohérent comme Calvin. Il peut donc dire une chose à un endroit et une autre ailleurs. Dans son traité de 1520, intitulé « La captivité babylonienne de l'Église », un des traités les plus lus de Luther, il prend une position, hélas négligée par la suite, lors des controverses avec les réformés. Dans la captivité babylonienne, Luther se concentre sur le verset de 1 Corinthiens 10, 16, qui dit « Le pain que nous rompons, n'est-ce pas une koinonia au corps du Christ ?» Autrement dit, la relation entre le pain que nous rompons et le corps du Christ est une communion, une sorte de participation de l'un à l'autre. Et Luther va expliquer cette participation, cette relation, non pas au moyen de la création, comme Thomas, mais en utilisant l'analogie de l'incarnation. Il écrit, et ce passage est suffisamment important pour que je le cite, ainsi, ce qui est vrai en ce qui concerne le Christ est également vrai en ce qui concerne le sacrement. Pour que la nature divine habite en lui, dans le Christ, corporellement, il n'est pas nécessaire que la nature humaine soit transsubstantiée et la nature divine contenue sous les accidents de la nature humaine. Les deux natures sont simplement là dans leur intégralité. Et il est vraiment dit, cet homme est Dieu, ce Dieu est homme. De même, il n'est pas nécessaire, dans le sacrement, que le pain et le vin soient transsubstantiés et que le Christ soit contenu sous leurs accidents afin que le vrai corps et le vrai sang soient présents. Mais l'un et l'autre y restent en même temps, car il est bien dit « ce pain est mon corps, ce vin est mon sang ». Fin de citation. Donc, de même que dans l'incarnation, le Christ est pleinement homme et pleinement Dieu, de même dans l'Eucharistie, le pain consacré est pleinement du pain et pleinement le corps du Christ. Il n'y a pas de conversion de substance, mais le vrai corps et le vrai sang du Christ se trouvent, comme le dit la formule de Concorde, sous le pain, avec le pain, dans le pain. Et on voit bien que la multiplication des prépositions indique la difficulté à décrire la réalité de cette koinonia. Le malheur, c'est que Luther ne va pas utiliser cet argument de la koinonia plus analogie de l'incarnation dans ses débats avec les réformés. Il va utiliser un autre argument, dit d'ubiquité. Si le Christ est assis à la droite de Dieu, et si la droite de Dieu est une métaphore pour la puissance de Dieu, et si la puissance de Dieu est omniprésente, alors le corps du Christ est aussi omniprésent, et donc la présence réelle du Christ est possible. Zwingli, qui rejette l'idée de présence réelle, rejette cette notion d'ubiquité. Pour lui, le corps du Christ fait partie de son humanité et non de sa divinité. Et si cette humanité est prise au sérieux, même ressuscitée, le corps ne peut pas perdre ses propriétés et manifester une forme d'ubiquité en devenant, comme il le dit, un corps infini. Alors à cet argument, Luther va répondre par ce qu'on appelle la communication des idiomes, en attribuant les qualités de la nature divine à la nature humaine. Mais cette solution est refusée par les réformés. Comme on le constate, premièrement, le camp protestant utilise un appareillage conceptuel différent de celui de Thomas et comprend par exemple autre chose dans l'expression « présence réelle ». Et ces différences ont empêché un dialogue possible car, à la lire de près, la position de Luther n'était pas si éloignée que celle de Thomas. On observe en second lieu des divergences entre les diverses factions protestantes. Luther tenait à la présence réelle dans l'Eucharistie et pas spécialement à la présence locale au ciel, alors que les réformés tenaient absolument à la présence locale dans le ciel. Alors ces divergences ont focalisé l'attention et les efforts des protagonistes, les détournant du même coup de la recherche d'un compromis possible avec les catholiques. La situation était donc bloquée. Et c'est ici qu'il faut introduire un personnage important mais peu connu, Pierre Martyr Förmigli. C'est un contemporain de Luther, un théologien protestant italien, tombé dans l'oubli mais qui a été redécouvert et traduit essentiellement en anglais depuis quelques décennies. Förmigli était un associé de Calvin. Il est un des rares réformés avec lequel Calvin n'a jamais eu de désaccord sérieux. Ils n'ont pas travaillé ensemble, mais ils correspondaient. Et Calvin a dit un jour, « Personne n'a une meilleure compréhension de la scène du Seigneur que Pierre Förmigli. » Alors, Pierre Förmigli n'était pas un responsable d'église ou un pasteur. C'était un intellectuel qui avait beaucoup de temps pour lire dans des bibliothèques. Et au cours de ses lectures, il a découvert une idée qui lui a paru très intéressante. Alors, elle porte malheureusement un nom assez barbare, la transélémentation, métastoïkésis. Alors, Förmigli a trouvé cette notion chez un théologien du XIe siècle qui s'appelle Théophylacte. Car à l'époque, les réformateurs voulaient montrer que leur compréhension ne sortait pas de nulle part, mais qu'ils avaient en fait le soutien de la tradition. Alors qu'est-ce que c'est cette transélémentation? Ce qui est très intéressant, c'est qu'au fond, c'est un modèle proche de celui exposé par Luther dans la captivité babylonienne. La transélémentation dit que la relation de koinonia est une relation d'habitation mutuelle entre le corps du Christ et le pain. Ce n'est pas seulement que le corps du Christ participe d'une façon ou d'une autre au pain, mais il y a une relation de chacun dans l'autre. Le pain reste du pain, sans aucune perte de sa définition en tant que pain, on ne distingue pas ici entre substance et accident, et il participe aussi, le pain, d'une manière ou d'une autre, au corps du Christ. C'est donc toute la personne du Christ qui est présente dans le sacrement et qui s'offre aux croyants sous la forme sacramentelle de son corps et de son sang. L'image utilisée par Formigli pour expliciter l'idée de la transélémentation, d'habitation mutuelle, est celle de l'image du fer dans le feu. Alors, cette image a ses limites, mais elle cherche à dire que le fer reste du fer, même dans le feu, il ne perd rien de ce qui le définit comme fer, et en même temps, le feu reste du feu. Et pourtant, les deux deviennent un. Tant que le fer est dans le feu, il y a unité inséparable et simultanément distinction entre les deux. Or, il se trouve que cette idée du fer dans le feu n'est pas nouvelle. Les pères grecs l'ont utilisée pour l'incarnation. Et c'est là le point crucial de toute cette histoire. Théophylacte était en fait un théologien orthodoxe oriental qui s'inspirait, mais ça Formigli ne le savait pas, de Grégoire de Naziance et Cyrille d'Alexandrie. Et il se trouve que le fer dans le feu, c'est le modèle que les pères grecs ont utilisé pour penser non seulement l'incarnation, mais également pour réfléchir à la façon dont la chair vivifiante du Christ est liée au don eucharistique du pain et du vin, sans séparation, ni division, sans confusion, ni changement. Ce n'est pas seulement que le corps est contenu dans le pain, c'est que le Christ, dans la puissance de l'Esprit, prend ses dons eucharistiques, se joint à eux, afin de s'offrir dans l'événement sacramentel, de s'offrir lui-même, à travers le prêtre, au peuple sous ses formes sacramentelles. Une compréhension qui implique, on le voit, une place explicite pour l'œuvre de l'Esprit-Saint, comme chez Calvin. Donc dans la transélémentation, il ne s'agit pas de descente et de conversion, mais d'une élévation et d'une mise en valeur où le pain et le vin sont unis dans une union mystique avec le corps et le sang du Christ. Union qui devient le moyen par lequel les fidèles entrent à leur tour en union mystique avec le Christ. Alors, quelle est la place de la transélémentation dans la théologie protestante? Fait-elle partie de ce qui est théologiquement acceptable pour les protestants? Alors, Luther, on l'a vu, a professé une idée semblable à la transélémentation, sans l'expliciter complètement, puisqu'il s'est embarqué dans une autre solution avec sa thèse d'ubiquité. Du côté des réformateurs protestants, l'idée du fer dans le feu était généralement connue, même si ces derniers ne l'ont pas utilisée. Mais l'important ici, c'est qu'ils la connaissaient et ne l'ont pas rejetée. Ils n'ont rien vu de problématique, comme on l'a vu avec Calvin. De plus, cette notion de transélémentation apparaît également dans un ouvrage intitulé « Sur la scène du Seigneur » de Thomas Cranmer, qui fut l'un des principaux artisans de la réforme anglaise et archevêque de Canterbury durant les règnes d'Henri VIII et d'Édouard VI. Et c'est lui qui prononça le divorce d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon, qui entraîna, comme vous le savez, la séparation de l'Église d'Angleterre et du Saint-Siège. Plus étonnant encore, Martin Bucer, le réformateur de Strasbourg, lui-même a également utilisé le terme « transélémentation » dans l'un de ses traités. Au final, Luther, Formigli, Cranmer, Bucer et indirectement Calvin, soit un luthérien, trois réformés et un anglican, ont utilisé chacun à des degrés divers cette idée qui a ses racines chez les pères grecs. Et ils n'y ont rien trouvé de mal. La question est maintenant posée, si cette notion est théologiquement acceptable pour les protestants, peut-elle s'offrir comme un lieu de dialogue et de reconnaissance possible par les autres confessions? Alors, avec les orthodoxes, certainement, puisqu'ils sont à l'origine de cette idée, et qu'elle est aujourd'hui encore défendue par un certain nombre de théologiens. Avec les catholiques romains, pourquoi pas ? Dans la mesure où le Concile Vatican II a décidé qu'il n'y avait aucune raison pour les catholiques de ne pas entrer en communion eucharistique avec les orthodoxes. Et sur ce point précis, par transitivité, on peut envisager une piste possible de rapprochement, sur ce point précis, dans les dialogues entre protestants et catholiques, et la reconnaissance de cette position s'il était adopté par les protestants. Élargis l'espace de ta tente, et tu pourras peut-être y accueillir tes frères. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette intervention. Je crois que tu nous as vraiment rendu sensibles d'abord à l'intensité des débats qui ont eu lieu entre les réformateurs au XVIe siècle. C'est impressionnant l'ampleur, l'importance de ces débats ou de ces controverses. On peut retenir aussi cette insistance sur la différence de langage entre Luther et la tradition héritée de Thomas d'Aquin, alors que effectivement, leur position n'était sans doute pas aussi éloignée qu'on a pu le croire par la suite. Et puis, merci surtout de nous avoir fait découvrir Pierre Vermigli et l'approche de ce réformateur, de ce théologien protestant du XVIe siècle, sans pouvoir offrir des voies tout à fait intéressantes, stimulantes pour des rapprochements, non seulement entre les réformés du XVIe siècle, mais aussi aujourd'hui, des voies de rapprochement avec l'orthodoxie et avec l'Église catholique. C'est sûrement une question qui serait à reprendre et à creuser entre nous. Nous abordons maintenant la toute dernière série d'interventions à laquelle on pourrait donner le titre général « Interpellation et perspective pour l'avenir ». Et c'est d'abord Anne-Cathy qui va intervenir. Anne-Cathy Graber, je n'ai pas eu l'occasion de le dire tout à l'heure, est pasteur mennonite. Elle appartient à la communauté du Chemin Neuf, qui est bien représentée ici ce soir. Elle est membre de la faculté de théologie du Centre Sèvres et elle est très engagée dans un certain nombre de dialogues œcuméniques, non seulement comme membre du groupe des dons, mais aussi dans le cadre de Foi et Constitution ou d'autres instances encore. Je lui laisse donc la parole.
Merci Michel. Alors, je propose de partager maintenant avec vous quatre clarifications qui sont des interpellations pour moi aujourd'hui et qui peuvent être des interpellations pour nos églises ou que nous adressent nos églises. En introduction de cette partie, revenir à ce dont il était question tout à l'heure. Il était question de situation nouvelle. Quelle est cette situation nouvelle que discerne le groupe des Dombes dans son texte présenté brièvement précédemment ? Situation nouvelle, je le rappelle, à partir de laquelle il serait possible d'envisager l'hospitalité eucharistique. Alors j'ai retenu quatre éléments qui ont permis une clarification sur nos conceptions respectives de l'Eucharistie, de la Sainte Cène ou du repas du Seigneur, selon les expressions. Ces clarifications ne sont pas statiques. Elles indiquent un itinéraire, un chemin, celui de la réconciliation entre nos églises, celui de la communion espérée. En ce sens, ces clarifications sont aussi porteuses d'interpellations qui permettent de se remettre en marche peut-être, car le chemin n'est pas terminé puisque nous ne pouvons pas encore officiellement communier ensemble. La première clarification concerne le mémorial ou anamnèse en lien avec l'épiclèse dont le professeur Michel Fédoux a parlé tout à l'heure. Cette clarification a permis de dépasser les oppositions classiques, ou plutôt les caricatures que l'on pourrait formuler ainsi. Les protestants ne croient pas en la présence réelle, à la différence des orthodoxes et des catholiques. Or, le consensus sur l'Eucharistie entre nos églises est bien là. Je cite le texte de Lima ou le BEM, baptême Eucharistie Ministère. Le Christ est présent dans ce mémorial, il nous accorde la communion avec lui. C'est l'Esprit Saint qui accomplit cette promesse du Christ, il l'accomplit ici et maintenant. L'on est redevable en particulier, dans les années 60, à un théologien protestant, Jean-Jacques von Almen, d'avoir clarifié, lui aussi, de son côté, le sens du mémorial. Il affirme qu'il s'agit évidemment de bien plus que se souvenir. Il y a là plus qu'un effort de mémoire. Il convient ici, dit-il, pour avoir une compréhension juste de l'anamnèse, de revenir à son terreau juif, dit-il, au sens de la célébration juive. Célébrer la Pâque en contexte juif, c'est passer soi-même la mer Rouge, refaire l'itinéraire sur le chemin qui va de la servitude égyptienne à la liberté de la terre promise. Je cite, « L'anamnèse est un acte liturgique de type juif par lequel, pour obéir d'ordinaire à un ordre institutionnel du Seigneur, on devient soi-même participant et bénéficiaire d'un événement majeur de l'histoire du salut, par la célébration mémoriale qui en est faite. » Fin de citation. Alors, je précise que cette citation est tirée d'un autre ouvrage de von Almen, L'Eucharistie, qui est un dialogue entre un orthodoxe, Sisulias, un catholique, Thiard, et donc ce réformé. Pour le chrétien, faire anamnèse du Christ dans la scène, c'est avoir part à ce qu'il est, participer à sa vie et à son salut. C'est alors que le Christ devient pain de vie. Il poursuit disant, contrairement à ce que l'on a souvent pensé, c'est justement le caractère anamnétique de la scène qui atteste et garantit son réalisme et son efficace. Bien plus qu'un souvenir, l'anamnèse rend présent ce dont on fait mémoire. L'histoire passée, celle du Christ, devient notre histoire par l'Esprit Saint. Son histoire devient mon histoire, pour reprendre les mots du théologien luthérien André Birmelet. Je dis là des choses très évidentes pour les traditions luthériennes, réformées, anglicanes, les méthodistes aussi, je pense. Mais cela l'est moins, et je voudrais aussi faire droit à ces traditions ce soir, cela l'est moins pour les traditions de type évangélique, baptiste, pentecôtiste. Donc, pour une autre partie importante des familles protestantes. Par exemple, si l'on retourne au dialogue du comité mixte baptiste-catholique en France, les baptistes expriment aux catholiques ne pas pouvoir dire que le mystère pascal est rendu présent et actuel dans le mémorial eucharistique. Les baptistes vont parler dans ce document du mémorial comme, je cite, un rappel spirituel. Dès lors, on comprend la critique qui peut être formulée par les catholiques, par des luthéraux réformés, des anglicans, vis-à-vis de ces traditions évangéliques pentecostistes, baptistes, anabaptistes. N'y aurait-il pas une conception minimaliste qui réduit la scène à une célébration commémorative ? Célébration où le don effectif de la grâce ne serait pas vraiment présent. Donc, le travail de clarification sur le mémorial n'est pas terminé. C'est pour moi une première interpellation que j'entends, que évangélique, baptiste, pentecôtiste retravaille avec d'autres le sens du mémorial. Cela demandera un déplacement scripturaire conséquent pour nous, évangéliques, mais il est possible. Cette interpellation n'est pas irréaliste. J'en veux pour preuve le dialogue international baptiste-catholique, où les baptistes disent explicitement aux catholiques qu'ils, donc les baptistes, je cite, « reconnaissent que la catégorie d'anamnèse, de mémorial, au sens scriptural du terme, leur permet de mieux comprendre les catholiques. Et surtout, ils disent comprendre que l'on peut dire qu'il y a actualisation. » Donc des baptistes, au niveau international, peuvent dire cela. Il y a actualisation. On peut dire que l'on participe réellement aux événements de la mort et de la résurrection dans la célébration de la scène. D'où ce travail qui, selon moi, est encore à faire, n'est pas terminé. Entre nous, ça c'est un dialogue intra-protestant d'une certaine manière. Après le mémorial, je serai plus bref pour les autres clarifications, interpellations. La deuxième interpellation concerne l'articulation entre communion eucharistique et communion ecclésiale. Nous sommes tous, à peu près, je pense, d'accord pour dire « l'Eucharistie est ainsi tout à la fois la source et le sommet de la vie de l'Église ». Sans la communion dans l'Eucharistie, il n'y a pas de pleine communion ecclésiale, Sans la communion ecclésiale, il n'y a pas de vraie communion dans l'Eucharistie. C'était dit dans un dialogue entre luthériens et catholiques. Il insiste pour dire que cette communion n'est pas notre œuvre, elle est vraiment celle du Christ. Alors c'est vrai, nous pouvons dire les mêmes choses, les mêmes mots, mais leurs conséquences vont être autres. Et c'est là que ce travail de clarification n'est pas terminé. Les conséquences sont autres. Pour la théologie orthodoxe ou catholique, cela veut dire qu'une célébration commune de l'Eucharistie ou bien l'hospitalité eucharistique, voire pourquoi pas une reconnaissance mutuelle des Eucharisties, ont un préalable. Et ce préalable, c'est la communion ecclésiale. Nous devons être en communion ecclésiale pour pouvoir entrer dans cette reconnaissance mutuelle ou dans cette hospitalité. Pour les églises luthéro-réformées ou anglicanes, c'est pratiquement l'inverse. C'est dans et par la communion eucharistique qu'est donnée la communion ecclésiale. Donc pour être invité à communier à la Sainte Cène, il faut simplement confesser le Dieu Trinité, mais il n'y a pas de condition ou d'interdiction ou de réserve pour être invité à la table. Alors, une des argumentations bibliques que je vais vous donner là est assez connue. C'est celle que donne en particulier, qu'utilise assez souvent un théologien que j'ai déjà cité, André Birmelet. Mais elle me paraît éclairante pour comprendre le raisonnement. Il fait remarquer que lors du Jeudi Saint, Christ a souhaité partager la scène avec tous, même celui qui l'a trahi ou ceux qui allaient le trahir. Je le cite. Il y avait pléthore de traîtres. Judas ne fut pas le seul. Pierre aussi trahira et les autres, ils fuiront quand ils auront peur pour leur vie. La trahison de l'un fut-elle pire que celle des autres? La seule différence dans l'appréciation des trahisons ne réside-t-elle pas dans le fait que pour Judas, ce fut un chemin sans retour, alors que les autres vivront du pardon et de la grâce? Jésus a pris le repas avec tous ses disciples. Il n'a pas pour autant justifié l'acte du traître. Cet acte est injustifiable. Il veut cependant justifier le traître, c'est-à-dire le pécheur, et l'inviter à vivre de sa grâce. Fin de citation. Alors, l'interpellation que j'entends quand même et qui m'est faite parfois, qui m'est adressée parfois, c'est ce que nous, protestants, qui pratiquons ce que nous appelons table ouverte, comment ne pas faire de cela une sorte de tolérance qui peut être mal comprise? Comment honorer aussi, tout en faisant table ouverte, comment honorer cette exigence, cet appel que requiert la communion ecclésiale? De plus, l'expression table ouverte est quelque peu maladroite, car elle suggère que le partenaire orthodoxe, l'ami orthodoxe ou catholique pratique la table fermée. Comment sortir de cette binarité, table ouverte, où nous, protestants, finalement, nous avons le beau rôle, à table non ouverte ou fermée? Il y a là une divergence réelle, non encore surmontée, et un travail à faire. Troisième interpellation, j'ai commencé à l'annoncer tout à l'heure, l'Église fait l'Eucharistie et l'Eucharistie fait l'Église. Phrase connue, reprise par le groupe des Dombes. Alors bien sûr, tous nous dirons il faut distinguer entre faire et faire, le premier faire et le deuxième faire. Affirmer que l'Église fait l'Eucharistie n'est quand même pas la même chose que de dire l'Eucharistie fait l'Église. L'activité de l'Église est décisive pour la réalité eucharistique elle-même. On ne dit pas tout à fait la même chose. Le rôle de l'Église dans la célébration eucharistique reste une question non surmontée, une question ouverte, pour le dire pudiquement. On peut dire que la tradition catholique accorde à l'Église qui célèbre une place plus grande, un rôle plus important, plus efficient, que ne le font les églises de la Réforme. Et un théologien catholique, jésuite, dont on a parlé tout à l'heure, qui a particulièrement clarifié cette question, Bernard Sesbouet, notamment dans un dialogue catholique-protestant français, il précise bien que l'Église n'ajoute rien à l'agir sauveur de Dieu en Christ et qu'elle n'est pas médiatrice au même titre que le Christ. Mais elle est au service de la médiation du Christ qu'elle rend efficacement présent. Et alors, mais c'est ça, la question pour nous, la question ouverte, c'est quel est cet efficacement que nous comprenons différemment et qui va être un peu complexe. C'est ainsi que Bernard Sesboué va formuler la question clé, faisant sien des propos de Walter Casper. Je cite la question. « L'Église est-elle sanctifiée au point de devenir elle-même sujet sanctifiant ?» L'Église est-elle sanctifiée au point de devenir elle-même sujet sanctifiant ? Donc, quel est le rôle de l'Église ? Et c'est là où catholiques et protestants nous répondront différemment. Alors, ça n'est pas caricatural, hein. Il n'y a pas d'un côté ceux qui vont dire oui, et de l'autre ceux qui vont dire non. Mais elle sera peut-être chez les uns plus sanctifiante, peut-être chez les orthodoxes ou chez les catholiques, que chez les autres. Alors, très logiquement, se greffe sur ce thème une autre question ouverte, la plus délicate, mais qui est une conséquence, celle qui concerne le rôle des ministères qui président cette célébration. Selon la compréhension protestante, tout membre de l'Église, par son baptême, a la capacité de célébrer une sainte scène. Par son baptême, et non pas par une ordination. Mais il n'est pas pour autant habilité à le faire, parce que tout baptisé n'a pas de mandat ecclésial pour cela. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement que le ministre protestant qui préside le repas du Seigneur n'a pas d'autre capacité, n'a pas une capacité particulière autre que celle de son baptême. Ainsi, son rôle dans la célébration eucharistique, bien sûr, sera différent, n'est pas lié à un pouvoir particulier reçu à son ordination. Il y a une divergence ici qui n'est pas surmontée, qui reste un obstacle dans nos ecclésiologies, et dans nos compréhensions du ministère. D'où la difficile question de l'hospitalité eucharistique, parce que nos ministères ne sont pas encore mutuellement reconnus. Nos ministères, en particulier du côté protestant, ont ce qu'on appelle, et vous le comprenez avec ce que je viens de décrire, un defectus. Quatrième et dernière interpellation, le lien, je serai plus courte, le lien entre communion eucharistique et éthique. Tous les dialogues œcuméniques sur l'Eucharistie parlent du travail pour la justice. Tous s'engagent éthiquement d'une seule voix dès lors qu'ils parlent de la justice au cœur de l'Eucharistie. Je cite un dialogue anglican, luthérien. Quand l'Église ne se soucie pas des pauvres, elle ne prend pas part à la scène du Seigneur, elle la profane et se trahit elle-même. Alors, je me suis posé une question. Alors que les questions éthiques sont précisément celles qui nous séparent le plus vivement aujourd'hui, que ce soit les questions de début de la vie, fin de vie, il y a là peut-être une bonne nouvelle que d'entendre que la conséquence éthique de l'Eucharistie est dite d'une seule voix et dans tous les dialogues. Je termine par une citation du comité mixte, de la commission mixte réformée catholique. En prenant la scène, en prenant l'Eucharistie, la communauté chrétienne n'essaie pas de restaurer un passé. Elle se tourne vers son ministère et sa responsabilité dans le monde d'aujourd'hui.
Donc c'est évidemment, il me revient d'intervenir en dernier lieu, c'est évidemment une gagure de dire en peu de temps, très peu de temps, comment on pourrait envisager du point de vue catholique les possibles avancées vers une même foi eucharistique. Je ne reviendrai pas sur ce qui a été acquis avec Vatican II, par exemple l'importance nouvelle que l'Eucharistie a donnée à la parole de Dieu. Je ne m'arrêterai pas non plus sur les avancées de la théologie catholique dans les années qui ont suivi le Concile Vatican II. Je voudrais simplement indiquer quelques points qui me semblent avoir une portée spécifique pour les relations avec les autres églises. Peut-être spécialement avec les églises de la Réforme. Au préalable, on peut remarquer que l'Église catholique, pour sa part, s'est pleinement engagée dans le dialogue œcuménique depuis Vatican II, déjà avant, mais surtout depuis Vatican II. Cela, à travers sa participation à des groupes, à des commissions d'experts. Je voudrais rappeler, entre autres, que des théologiens catholiques, mandatés par le Saint-Siège, ont signé en 1978 le document luthérien catholique « Le repas du Seigneur », document dans lequel luthériens et catholiques reconnaissent pleinement ce qu'on appelle traditionnellement la présence réelle dans l'Eucharistie. Il y a même eu un acte audacieux et souvent méconnu de la part de l'Église catholique romaine par rapport à une église orientale, l'église assyrienne d'Orient. L'une des prières eucharistiques en usage dans cette église, c'est ce qu'on appelle l'anaphore d'Adaï et de Marie. C'est une prière qui n'inclut pas le récit évangélique de l'institution de l'Eucharistie. Or, en juillet 2001, l'Église catholique romaine n'a pas hésité à reconnaître la validité de l'Eucharistie célébrée avec cette anaphore, avec cette prière eucharistique, dans l'Église assyrienne de l'Orient. Et l'Église catholique romaine a estimé que cette prière eucharistique de l'Église assyrienne d'Orient, bien que différente de la sienne, n'empêchait pas un accord de fond sur le sacrement ainsi célébré. Donc, il y a eu un réel engagement de l'Église catholique, surtout depuis Vatican II, à propos de l'Eucharistie. Il faut bien reconnaître en même temps qu'il y a souvent un écart important entre les avancées ainsi réalisées et les représentations courantes de ce que signifie l'Eucharistie et de la manière dont elle est comprise dans d'autres églises. Il y a un vrai problème concernant la réception des accords œcuméniques à propos de l'Eucharistie. Je ne m'arrêterai pas ici sur les raisons de ce phénomène, car cela relève d'un problème plus général concernant les transformations du paysage ecclésial. Mais je voulais tout de même signaler cette question fondamentale, le problème de la réception des accords œcuméniques. Je voudrais m'en tenir simplement ici à quelques questions concernant spécifiquement l'Eucharistie. Un petit mot d'abord sur une question qui s'est posée dans le contexte de la pandémie et qui a touché chacune de nos églises. La question du rapport entre communion spirituelle, entre guillemets, et communion eucharistique. La pandémie a donné à beaucoup de catholiques, en tout cas, l'occasion de redécouvrir qu'une forme réelle de communion pouvait unir les membres de l'Église, même en l'absence de participation à la messe. Et cela, de fait, est important. Mais on a entendu aussi la souffrance légitime de ne pas pouvoir se rassembler physiquement comme communauté chrétienne, pour la célébration eucharistique. Et de fait, il y a une portée spécifique de cette communion sacramentelle, puisque avec elle et par elle, le baptisé reçoit l'assurance que le Christ se donne à lui comme nourriture, au plein sens du terme. Alors sans doute, si on réfléchit aux enjeux œcuméniques, sans doute la tendance dominante de l'Église catholique a-t-elle été traditionnellement de mettre surtout l'accent sur la participation à la messe, peut-être au risque d'occulter parfois d'autres formes de prière qui permettent une véritable communion spirituelle. Peut-être la tendance dominante des églises de la Réforme a-t-elle été la tendance inverse, mais ce n'est pas à moi de le développer. Il me semble en tout cas d'autant plus nécessaire de réfléchir, dans la perspective même de l'unité des chrétiens, sur ce que peut être une juste articulation entre la communion eucharistique et les autres formes de communion spirituelle, en évitant de réduire la communion spirituelle à la communion eucharistique, mais en manifestant aussi la spécificité de la communion eucharistique dans l'existence chrétienne. Je crois qu'il vaudrait la peine, à ce point de vue, de retrouver les réflexions très profondes de Karl Rahner, jadis, sur les rapports entre ce qu'il appelait l'expérience spirituelle du quotidien et la célébration eucharistique. Rahner montrait comment l'une et l'autre se rejoignent, se soutiennent, se complètent et s'interprètent l'une à la lumière de l'autre. La deuxième question que je voudrais mentionner, c'est la question particulièrement sensible de ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique. Question non seulement sensible, mais parfois douloureuse. Elle se pose avec acuité dans le cas des mariages mixtes. Indépendamment des mariages mixtes, ce problème est perçu de manière assez contrastée à l'intérieur même d'un pays comme la France, pour ne pas parler ici de l'Allemagne. Il y a en France, par exemple, d'un côté, ceux et celles pour qui un non-catholique ne peut d'aucune manière communier lors d'une messe catholique. Mais il y a aussi, à l'autre extrême, ceux pour qui l'intercommunion ne devrait poser aucune difficulté, devrait être considérée comme tout à fait normale. On trouve vraiment les deux extrêmes et tout un éventail de positions intermédiaires. Dans une telle situation, il me semble d'abord nécessaire de rappeler la distinction qui est devenue classique dans les documents œcuméniques, la distinction entre l'intercommunion et l'hospitalité eucharistique. Au sens strict, il ne peut pas y avoir d'intercommunion entre des baptisés qui, précisément, ne sont pas encore en pleine communion. Mais cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir hospitalité eucharistique, c'est-à-dire la possibilité, dans telle ou telle situation, d'inviter un, une non-catholique à communier lors d'une messe catholique. Je crois que les catholiques ignorent souvent qu'il y a eu sur ce point même, en 1983, une note de la Commission épiscopale française pour l'unité des chrétiens. Alors bien sûr, cette note peut apparaître comme très restrictive. L'hospitalité eucharistique, est-il dit, ne peut pas être habituelle, elle n'est possible que dans certains cas exceptionnels. Mais la possibilité est néanmoins reconnue. Beaucoup plus récemment, au niveau de l'Église universelle cette fois, le Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens a publié en 2020 un document qui dit ceci. En soi, la participation à l'Eucharistie doit être réservée en général à ceux qui sont en pleine communion, mais cependant, dans certaines circonstances, je cite, l'admission à ces sacrements peut être autorisée ou même recommandée à des chrétiens d'autres églises et communautés ecclésiales. Et le document renvoie sur ce point à un discernement pastoral de la part de l'évêque. Quelle peut être, dans ces conditions, la juste attitude à tenir? Quelles perspectives peuvent se dessiner pour l'avenir? Je soulignerai pour ma part deux exigences. La première, c'est, comme je le laissais déjà entendre, de bien comprendre que l'hospitalité eucharistique n'est pas encore l'intercommunion au sens strict. C'est sans doute ce qui explique la prudence des textes magistériels. On serait un peu dans l'illusion si l'hospitalité eucharistique était banalisée purement simplement, si elle laissait entendre que les églises sont en pleine communion. Le jeûne en la matière peut certes être vécu comme une souffrance, mais il dit aussi la réalité d'une situation dans laquelle nous sommes encore en chemin vers la pleine communion que nous espérons. Mais une seconde exigence s'impose, et il me semble qu'elle doit être absolument tenue, c'est de pouvoir accueillir précisément à la communion quiconque partage l'essentiel de la foi eucharistique. Je dis bien l'essentiel, c'est-à-dire la reconnaissance que, comme le disait le document du groupe des Dombes, c'est le Christ qui se lie lui-même par ses paroles et dans l'esprit à l'événement sacramentel, signe de sa présence donnée. Si l'on prend cela comme critère de discernement, alors oui, l'hospitalité eucharistique peut être et doit être offerte, non pas simplement par courtoisie, non pas d'abord par courtoisie ou par simple générosité, mais parce qu'elle exprime dès maintenant un accord de fond sur le sens du repas du Seigneur, et qu'elle représente par le fait même une anticipation de la pleine communion à laquelle nos églises sont appelées. Il importe de le savoir, de le faire savoir, et toutes les fois que cela peut advenir, c'est un signe fort qui est posé. C'est comme une première réalisation de ce qui est la visée première et ultime du dialogue œcuménique, à savoir que tous les baptisés puissent un jour communier à la même table. J'évoquerai plus brièvement une troisième question qui reste inscrite dans l'agenda du dialogue œcuménique au sujet de l'Eucharistie. C'est celle qui concerne la durée ou la permanence de la présence eucharistique. Il y a sur ce point, on l'a déjà dit, une divergence qui demeure. Contrairement aux églises de la Réforme, pour qui il ne peut pas y avoir de réserve eucharistique au-delà de la célébration, l'Église catholique tient que le don de la présence eucharistique se prolonge au-delà de la célébration, et évidemment la pratique de l'adoration du Saint-Sacrement présuppose cette conviction. Le dialogue œcuménique n'a pas permis à ce jour de surmonter cette divergence. Mais le dialogue entre luthériens et catholiques a au moins rappelé une double exigence de conversion. Du côté luthérien, est-il dit dans le document luthérien, luthéro-catholique, le repas du Seigneur, du côté luthérien, il s'agirait de respecter le plus possible le pain consacré en le consommant juste après la célébration ou en le portant malade. Du côté catholique, il y aurait à se rappeler que la justification première, originelle, de la réserve eucharistique, c'est de garder du pain consacré pour le porter aux malades ou à d'autres qui n'ont pas pu participer à la célébration. Cela n'exclut évidemment pas d'autres justifications, comme celle d'un dialogue intime, cœur à cœur, avec le Christ devant le tabernacle. Encore faut-il ajouter cette remarque très importante, c'est que, du point de vue même de la théologie catholique, l'adoration du Saint-Sacrement ne peut être juste, bien ajustée, que si l'on ne perd pas de vue sa relation avec le repas du Seigneur. Car, comme Karl Rahner encore le rappelait jadis, le Seigneur adoré sous les espèces du pain consacré est celui-là même qui s'est offert comme nourriture et qui désire se donner encore comme nourriture. Il est sans doute capital de le souligner, non seulement parce que c'est opportun pour les catholiques eux-mêmes, en des années où la pratique de l'adoration a repris une place plus importante, en particulier chez les plus jeunes, mais aussi parce que cela peut contribuer à dissiper un malentendu important dans le dialogue avec les églises de la Réforme. Je mentionne en quatrième lieu, très brièvement, la question des ministères. Je le fais simplement pour mémoire, car notre soirée ne porte pas sur ce point. Mais il est clair, et Anne-Cathy l'a dit aussi, il est clair que pour progresser vers une même foi eucharistique, il faudra aussi progresser vers une réconciliation au sujet des ministères. Car, à supposer que l'on s'accorde sur l'essentiel de l'Eucharistie, ce qui a été déjà le cas dans le cadre du groupe des Dombes ou dans le cadre d'autres dialogues internationaux, l'intercommunion ne sera pleinement possible que lorsque le prêtre, le pasteur ou la pasteur présidant l'Eucharistie seront reconnus par l'autre Église comme authentiquement ministres du sacrement. Le progrès vers une même foi eucharistique nécessite donc l'approfondissement de la réflexion œcuménique sur les ministères. Et cette réflexion est particulièrement urgente dans le contexte actuel. L'évolution du christianisme dans nos sociétés, nous le savons, fait de plus en plus ressortir la pénurie de ministres ordonnés pour répondre à toutes les demandes de célébrations eucharistiques, dans certains diocèses, en particulier dans ceux qui sont le plus défavorisés. Or, comme aimait le dire le théologien Edward Skilbeck, il y a pour les baptisés un droit à l'Eucharistie. Ce sont donc aussi ou d'abord les nécessités mêmes de l'évangélisation, les nécessités mêmes de la pastorale qui devraient inciter à aller de l'avant dans une réflexion œcuménique sur les ministères, parce qu'il y va, entre autres, de la possibilité pour les baptisés d'avoir part au repas du Seigneur. Cinquième remarque, le progrès vers une même foi eucharistique suppose aussi que l'Église catholique ait déjà en interne le souci de sa propre communion. Naturellement, communion ne veut pas dire uniformité. On comprend que le pape Benoît XVI ait reconnu à certains catholiques la possibilité de célébrer l'Eucharistie selon la forme dite extraordinaire. Mais comme l'a souligné le pape François dans son récent motu proprio en juillet 2021, cette possibilité a été aussi, je cite le pape François, exploitée pour élargir les fossés, renforcer les divergences et encourager les désaccords qui blessent l'Église, bloquent son chemin et l'exposent au péril de la division. Fin de citation. Il est donc heureux que l'usage de la forme extraordinaire soit davantage régulé et que ne soit admise qu'en totale communion avec l'évêque du lieu. Ce qui est en jeu, c'est la raison pour laquelle j'en parle, ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement l'unité de l'Église catholique elle-même, mais c'est aussi la crédibilité qui doit être la sienne dans son dialogue œcuménique avec d'autres églises. Je voudrais terminer par une sixième, dernière remarque. Je pense que, dans la perspective même de la communion des chrétiens, nous avons besoin aujourd'hui d'une véritable théologie de l'Eucharistie. J'entends par là non pas simplement des considérations particulières sur telle ou telle question relative à l'Eucharistie, j'en ai évoqué plusieurs, mais nous avons besoin d'une vraie théologie, c'est-à-dire d'une réflexion de fond sur ce que le repas du Seigneur révèle de Dieu même, sur la manière dont le Dieu de Jésus-Christ s'engage, aujourd'hui comme hier, dans l'offre du pain et du vin eucharistique, sur ce que cela représente pour l'Église, sur ce que cela signifie pour le monde lui-même. Je pense ici à la grande et profonde vision de Teilhard de Chardin, qui voyait dans la consécration du pain et du vin eucharistique comme une réalisation anticipée de ce que doivent devenir l'être humain et le monde lui-même selon leur vocation ultime. Il faudra certes continuer à réfléchir sur des questions particulières comme celles que j'ai évoquées. Mais nous avons surtout besoin aujourd'hui, je pense, d'une vision profonde et large de l'Eucharistie qui soit d'une part enracinée dans la révélation biblique, qui rende d'autre part attentif à l'horizon ultime de ce sacrement comme anticipation du règne de Dieu et qui, dans l'entre-deux de l'origine et de la fin, puisse aider à avoir goût et à trouver saveur dans la célébration du repas du Seigneur. Il me semble que, malgré ou par-delà les contentieux hérités du passé et les questions particulières du dialogue œcuménique, une telle vision de l'Eucharistie aiderait par là même à progresser sur le chemin vers une même foi eucharistique. En tout cas, l'Église catholique doit certainement contribuer à cela. Et l'enjeu est essentiel car, s'il est vrai que, selon saint Paul, la communion au même pain et à la même coupe doit comme telle manifester l'appartenance au corps du Christ, alors on doit comprendre que l'Église catholique ne sera pas pleinement catholique tant que tous les baptisés ne pourront pas partager habituellement le repas du Seigneur. Certes, le partage du même table eucharistique dans l'ordinaire des jours est encore devant nous, mais il ne doit pas être perçu comme un horizon désespérément inaccessible. Il doit plutôt faire l'objet d'une espérance, car, encore une fois, il n'y va pas seulement de l'Eucharistie elle-même, mais aussi, à travers elle, de la communion de tous les baptisés à l'unique corps du Christ.
Merci beaucoup, Michel, en particulier pour cette fin pleine d'espérance. Et ce projet d'une théologie ensemble, en tout cas de l'Eucharistie. Mais nous allons pouvoir les uns les autres réagir à ces perspectives, poser des questions. Mais avant, je réalise que je n'ai pas présenté Michel Fédoux. Alors, il y a quelque chose de tout à fait incongru à présenter Michel Fédoux, déjà en général, mais en plus dans ce lieu. Mais je vais quand même le faire. Donc, Michel Fédoux est professeur de théologie dogmatique, patristique, très engagé dans le dialogue œcuménique, il est membre du groupe des Dômes, il est aussi membre de la commission du comité catholique orthodoxe en France et aussi de la commission internationale luthéro-catholique. Il y a encore plein d'autres choses à dire, mais vous le connaissez tous, je pense. En tout cas, merci Michel. Maintenant, la parole va être à chacune d'entre vous. Il y a un micro qui va circuler. Voilà, merci, que Sandrine va faire circuler. Donc, simplement lever la main. Alors, ce qu'on va faire, simplement, on va prendre deux ou trois questions. Et puis, vous pouvez dire aussi à qui vous adressez éventuellement cette question. Eh bien, ça peut être celui...
Voilà. Merci beaucoup pour toutes ces interventions. J'ai une remarque et une question. La remarque, c'est que ça fait maintenant presque 50 ans depuis la publication de ce document par le groupe des Dombes. Et nous parlons toujours sur le chemin vers la même foi eucharistique. Donc, combien de décennies avant d'y arriver si le groupe des Dombes a déjà parlé de l'ascension? Ça, c'est une remarque, ce n'est pas vraiment une question. Mais la question concerne l'hospitalité eucharistique. Vous avez peut-être vu en Allemagne pendant le Kirchentag œcuménique qui était le plus grand rassemblement chrétien en Allemagne, même si cette année, à cause de la pandémie, c'était en duplex. Il y avait le soir du samedi les cultes, les messes où les participants de l'Education Tag sont invités de participer à la communion. Donc, ce n'était pas quelque chose qui se trouve dans une église de la ville où il y a quelques protestants ou quelques catholiques parmi les autres fidèles, mais c'était quelque chose qui était fait officiellement par les organisateurs d'Education Tag. Et la question, c'est est-ce qu'il faut continuer à discuter? Bien sûr, mais est-ce qu'il ne vaut pas, ne faut pas avoir la foi de faire le pas? Et je pense en Allemagne, pendant le Education Tag œcuménique, où cette question était très controversée pendant plus que 20 ans, ils ont eu la foi de faire le pas avant. Donc, pour moi, c'est une question si c'était vraiment, c'était une question théologique, mais si c'est vraiment seulement une question théologique où on pense discuter encore plus en y arriver, ou est-ce que c'est vraiment une question d'avoir la foi comme chrétien, mais aussi comme église, de faire le pas?
Merci. Une autre question? Oui, Anne-Marie. Qui veut s'exprimer sur cette question? Peut-être.
Alors, je ne réponds pas tout à fait voilà, dans un sens ou dans l'autre, mais un des vrais problèmes ou un des vrais freins, c'est la non-réception de ces documents ou d'autres documents voilà, qui sont signés et qui, au fond, ont de la difficulté à être reçus, à être intégrés. En tout cas, on le voit chez les protestants où il n'y a pas un magistère qui... voilà, qui quelque part peut décider plus globalement, mais je crois que il y a une richesse absolument extraordinaire dans tous ces documents, souvent bilatéraux, qui sont produits, mais après, qu'en fait-on? En fait, c'est ça souvent un des gros problèmes. Et donc on tourne un peu, quelque part, dans le vide.
Tout simplement par rapport à votre question, merci beaucoup. Je pense qu'il y a un accord de fond qui a été signé effectivement entre un certain nombre de chrétiens, on l'a vu avec le document du groupe des Dombes, mais je dirais premièrement, on doit aussi entendre ce que disait Anne-Cathy tout à l'heure, hein, c'est-à-dire que cet accord, il a été signé par un groupe dans lequel il y avait des luthériens et des réformés uniquement. Bon, mais le monde protestant, et on en a de plus en plus conscience, est beaucoup plus vaste que cela. Deuxièmement, je dirais, même si un accord a été signé dans un certain nombre de groupes, un accord a été obtenu dans un certain nombre de groupes œcuméniques, il reste la nécessité, l'exigence d'un discernement, je dirais, un peu au cas par cas. Hein. Est-ce qu'en pratique, on est bien d'accord sur ce que recouvre, ce que signifie l'Eucharistie? Sinon, il y a le risque d'une banalisation. Je crois qu'il y a ce paramètre aussi qu'on doit avoir en vue. Et puis, troisièmement, je dirais, aller plus loin, ça suppose un engagement des églises, de leurs responsables eux-mêmes. Voilà. J'ai dit à propos de la suite eucharistique tout à l'heure, hein, le document de 2020 insiste sur le discernement pastoral de l'évêque. Bon, vous évoquiez l'Allemagne, il y a eu un conflit en 2020, justement, hein, l'année dernière, un conflit important, parce que cet évêque, je crois, était intervenu auprès du Vatican, hein, pour poser la question d'un éventuel accès à l'Eucharistie pour des époux, des épouses non catholiques. Et le Vatican a réagi en demandant aux évêques allemands d'être d'abord d'accord entre eux. En l'occurrence, ils n'étaient pas d'accord entre eux, donc ça n'a pas pu avancer. Donc il y a toutes ces questions qui entrent en jeu, même si effectivement un accord a été obtenu dans le cadre de certains groupes.
Cyril, sur cette question ou bien d'emblée sur la deuxième, du baptême, comme vous voulez.
Oui, alors effectivement, il y a le fait de ne pas se retrouver coupé du reste.
Oui, pardon. Donc effectivement, le fait de ne pas se retrouver coupé du reste du groupe de confession Et le poids de l'institution qui fait, à mon avis, ralentit énormément les choses. Alors, je voulais partager avec vous l'expérience peu connue, mais tout à fait remarquable, d'un groupe de dialogue qui a été pionnier dans le dialogue œcuménique entre orthodoxes et anglicans dans les années 20 du siècle précédent, où les choses sont allées très loin. Les choses sont allées très loin, donc on était vraiment au tout début du dialogue œcuménique. Et du côté orthodoxe, c'était en particulier le père Serge Bulgakov, qui était, disons, la figure inspiratrice. Et le père Serge Bulgakov avait fait ce constat qu'au sein de ce groupe d'anglicans orthodoxes, où vraiment on avait partagé et prié beaucoup de foi ensemble, échangé sur les questions théologiques, et le groupe était parvenu à cette conclusion qu'il n'y avait plus de différends théologiques. Et donc le préalable requis normalement dans la pratique orthodoxe d'unité de foi avant de pouvoir communier, ce préalable était levé d'une certaine façon. Et il avait fait cette proposition qu'effectivement, nous n'avons plus de différends théologiques, nous sommes d'accord, il y a une unité de foi entre nous, nous l'avons constaté, et il avait fait cette proposition de passer à l'acte, d'une certaine façon. Nous pouvons désormais, en principe, communier ensemble. Et il avait lancé un appel du côté des orthodoxes, en tous les cas, un appel que je trouve absolument prophétique, évidemment, qui malheureusement n'a pas été reçu par, en particulier par l'institution. Mais je trouve quand même effectivement la démarche intéressante, inspirante, et votre question tout à fait pertinente, parce que je pense qu'effectivement, peut-être qu'il va falloir penser quand même à un jour franchir le pas pour que les choses avancent. Voilà, c'est mon opinion personnelle.
Merci Cyril. Peut-être voulez-vous enchaîner avec la question autour sur le baptême ?
Oui, alors sur le baptême, effectivement, la question aussi est tout à fait pertinente. Alors, nous avons une vision, disons, totale de l'initiation chrétienne et nous ne distinguons en principe pas, ou en tous les cas, nous concevons comme un tout à la fois le baptême, la chrismation, et l'Eucharistie. Véritablement, l'entrée dans l'Église, elle se scelle définitivement une fois le baptême se conclut avec la participation eucharistique du baptisé. L'intégration au corps du Christ se conclut avec la participation eucharistique. Et il est vrai toutefois qu'il y a un déséquilibre. Là, je suis d'accord aussi avec l'expression, puisque... Dieu merci, nous reconnaissons la validité des sacrements. Alors, moi j'ai envie de dire que nous reconnaissons aussi la validité du sacrement de l'Eucharistie dans les autres confessions. Hein. Simplement, nous ne sommes pas encore, effectivement, puisqu'il y a certains différends encore dogmatiques qui concerne la foi à lever, nous ne sommes pas encore en pleine communion. Donc c'est une souffrance, quelque chose à vivre comme un rappel de cette réalité-là. Hein, mais je suis tout à fait d'accord, enfin, on ne peut que constater quelque chose d'illogique là-dedans, mais comme peut-être justement marque de notre... désunion, disons, et comme une croix à porter et absolument à transcender, à essayer de dépasser.
Je voulais vraiment vous remercier tous les quatre pour ces apports suggestifs et par certains égards très originaux. Merci d'avoir rappelé que la question de l'Eucharistie soulève des problèmes techniques qui touchent l'être. J'étais fascinée par la transélémentation. J'ai appris un nouveau terme de vocabulaire. Et ce que je trouvais très, très éclairant, très suggestif, c'est qu'on a aussi rappelé que l'Eucharistie se jouait aussi dans une action, enfin, du Christ qui se donne. Et j'ai été frappée par une des icônes que vous avez montrées, une des représentations historiques où on voyait les apôtres en file indienne. Et j'y ai vu comme une file de louanges, de louangeurs, presque de danseurs en attente du pain. Et je me suis dit, c'est vrai, l'Eucharistie, c'est à penser comme action du Christ, mais aussi comme mystère de réception d'un peuple qui accueille, qui se laisse transformer. Donc, ce sont juste quelques remarques, mais la dernière, c'est que j'ai été saisie toujours avec la même image des apôtres en file indienne. À la fois la chorégraphie, la danse, et en même temps ces files de migrants, de pauvres qui vont récupérer des colis alimentaires. Et je me dis, c'est grâce à vos quelques apports, en quelques minutes, on a pu faire converger des files qui sont précieux et qui disent chacun à leur manière quelque chose de la centralité de ce mystère. Alors, merci beaucoup.